Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est un événement très symbolique à l'échelle européenne. La grande messe de l'art contemporain allemande, un des événements du genre à l'échelle mondiale, à savoir la Documenta 14, se délocalise à Athènes. Une initiative qui n'est pas loin de la provocation quand on sait à quel point les relations entre Berlin et Athènes ont été tendues ces dernières années sur la question du plan de sauvetage économique européen. Autant dire que les Grecs ne veulent pas recevoir de leçons des organisateurs allemands. La Documenta 14 et la Biennale n'ont donc pas boudé les œuvres provocatrices et politiques. Reportage à Athènes de Charlotte Stignard.
Le rideau de la salle de concert du Mégaro Moussikis d'Athènes s'ouvre. Sur la scène, 160 artistes et les commissaires d'exposition sont assis dans la pénombre. Ils chuchotent, tapent des pieds, soufflent. Ils interprètent une œuvre du compositeur grec Yannis Christou, le Continuum. Une polyphonie qui veut rappeler ce qu'est cette exposition qui rassemble des artistes, sculpteurs, peintres et vidéastes venus d'horizons parfois très différents. Le succès est au rendez-vous et la semaine débute avec une série d'expositions. Takis Mavrotas est en charge des arts visuels à la Fondation Seoharakis qui ne participe pas à l'événement, mais il s'est précipité pour voir ce que cela donne.
La Documenta 14 est un événement important pour la Grèce. Je suis très content d'avoir vu deux premières expositions, notamment celle au Musée National d'Art Contemporain. J'ai été impressionné par son contenu idéologique et par le dialogue international qui a pris de l'ampleur avec des artistes du monde entier. J'ai beaucoup aimé l'Argentine Marta Minujín. J'ai bien aimé qu'elle ait osé donner des olives à Merkel et dire que l'Allemagne va prendre des olives et des arts à la Grèce.
Cette artiste plasticienne de Buenos Aires a choisi de proposer un tas d'olives brunes à un sosie d'Angela Merkel en guise de remboursement de la dette, un sujet au cœur des négociations entre la Grèce et ses créanciers. Mais cette exposition qui veut traiter des relations nord-sud ne se focalise pas uniquement sur les problèmes des Grecs. Pour Takis Mavrotas, elle cherche à dépasser cela.
L'idée, c'était d'avoir une relation directe avec la Grèce et de donner un caractère œcuménique à des problèmes et à des thèmes importants.
Mais à Athènes, tout le monde ne voit pas les choses de cet œil. En parallèle de la Documenta 14, se déroule également la Biennale d'Athènes, une exposition créée en 2006. Ce samedi soir, c'est le collectif gréco-allemand Documena qui a investi l'hôtel Bagion, place Omonia. Sur scène, des artistes portant des habits traditionnels grecs et allemands chantent à la façon des épirotes, ces Grecs du nord-ouest de la Grèce qui ont émigré en masse en Allemagne pour fuir la pauvreté dans les années 50. La satire vis-à-vis des riches Allemands donneurs de leçons est claire. Dans la foule, Maria, une artiste grecque conquise par la Documenta 14, comprend cependant ses critiques.
Les gens de la Biennale disent « Qui sont ces gens-là qui sont venus ici pour nous apprendre qui nous sommes ?» La Documenta a monté une programmation qui pourrait presque s'adresser exclusivement à des touristes, des étrangers, comme si ça ne s'adressait pas aux habitants de la ville.
Les organisateurs de la Biennale ont appelé cette édition « En attendant les barbares » du titre d'un poème très politique de Constantin Cavafy. Il se démarque ainsi de la Documenta 14 qui cite le même poète grec avec une œuvre plus classique appelée Ithaque. Pour eux, les barbares, ce sont l'autre, celui dont on se méfie, celui dont on a peur. Les barbares sont peut-être les Allemands pour les Grecs ou les Grecs pour les Allemands ou encore les immigrés. Tout en refusant d'être réduit au rôle d'empêcheur de tourner en rond, la Biennale dénonce aussi le rôle politique de la Documenta 14, souligné par la visite du président de la République allemande lors de l'inauguration. Naya Yakoumaki, en charge des relations internationales à la Biennale d'Athènes, critique cette récupération en contradiction avec l'intitulé de la Documenta « Apprendre d'Athènes ».
C'est ça la controverse qui a agacé les gens. La Documenta a l'air d'essayer de nous faire oublier la situation en Grèce. Ces hommes politiques ne sont pas venus discuter politique, finance, allègement de la dette, mais ils sont venus pour célébrer. Il y a là une contradiction. Les gens ici attendent que les hommes politiques soient là pour résoudre les problèmes. Mais là, ils viennent et sourient à la caméra. C'est normal, inévitable pour un tel événement, mais c'est un peu maladroit.
Lors de l'inauguration, le directeur artistique de la Documenta 14, le Polonais Adam Cimcik, a bien fait comprendre qu'il était conscient de la polémique.
Je suis ici pour répondre à cette question posée tellement de fois déjà. Qu'est-ce que la Documenta 14 a appris d'Athènes? Je dirais que nous avons tous appris que nous devons abandonner nos idées préconçues et avec elles, abandonner certains espoirs et s'immerger dans l'obscurité de l'absence de connaissances plutôt que de prétendre qu'on sait déjà tout avant de commencer.
La Documenta 14 sera pendant 100 jours à Athènes et à partir de juin, de retour à Cassel, la ville où elle est née il y a une soixantaine d'années.
Le pont de la discorde, le pont de Visegrad en Bosnie qui a longtemps symbolisé la coexistence pacifique entre Serbes et Bosniaques est aujourd'hui au cœur d'une polémique. Les autorités de l'entité serbe ont érigé une immense croix orthodoxe juste au-dessus du pont pour rendre hommage aux combattants russes venus les aider durant la guerre des Balkans. Une provocation pour les Bosniaques qui se rappellent surtout les horreurs de la guerre en Bosnie. Mercia Nezic.
En avril 1992, 3000 Bosniaques de Visegrad ont été tués dans une violente campagne de nettoyage ethnique. Les autres ont été déplacés. Depuis, peu d'entre eux ont pu regagner leur foyer. Les familles de victimes ont commémoré les 25 ans du massacre en avril dernier. Les autorités de l'entité serbe aussi, mais à leur façon, elles ont fait ériger une immense croix orthodoxe. Elle fait plus de 5 mètres et pèse 400 kilos. Le but, c'est de rendre hommage aux centaines de volontaires russes qui se sont engagés dans l'armée bosno-serbe pendant la guerre. La croix s'élève juste au-dessus du fameux pont ottoman de Visegrad, bien connu des amoureux de la littérature. C'est une agression psychologique, protestent les familles de victimes, mais leur voix compte peu. Les volontaires russes sont eux fêtés chaque 12 avril, déclarés jour des vétérans russes par les autorités de l'entité serbe de Bosnie. D'ailleurs, une plaque en l'honneur des Russes a déjà été installée à Visegrad il y a 6 ans. Leur rôle, pourtant, n'a pas été honorable pendant la guerre, rappelle la presse locale. Quant à la ville de Visegrad, si hier elle était célébrée dans la littérature pour la diversité de sa population, les choses ont bien changé. La dernière fois que la ville a fait parler d'elle, c'était il y a 3 ans, lors de la sortie sur le grand écran d'un docu-fiction. Les femmes de Visegrad rendent hommage aux habitantes bosniaques de la ville, systématiquement violées lors de cette campagne de nettoyage ethnique, il y a 25 ans.
Voilà un restaurant qui mène deux vies parallèles. Classique et plutôt branché au service de midi, il devient le soir gratuit pour les sans-abri. Et ce sont les repas payants de la journée qui financent les plats gratuits après 20h. Et l'idée vient du père Andrel, un religieux qui depuis des années distribue des soupes populaires aux exclus. Mais cette fois, dans l'établissement Robin des Bois, on veut faire plus que simplement donner à manger. Un reportage signé François Musso.
Nous sommes en plein quartier de Latina, Calle del Nuncio, une des rues les plus chiques et coquettes de cette zone touristique de Madrid, connue pour ses tapas, ses terrasses et son atmosphère festive. Ce soir-là, au premier étage du restaurant Robin Hood, Robin des Bois, se déroule un dîner avec toutes les apparences d'un dîner normal dans un restaurant normal. Sauf qu'ici, tous les clients sont des sans-abri, tous des gens sans ressources. David, 40 ans, dit ne plus avoir de famille.
Eh bien, nous avons mangé de la ratatouille, une omelette espagnole et un yaourt. Et c'était très bon. Il faut dire qu'ils ont de très bons cuisiniers.
David est tout fier. Il s'était inscrit auprès de l'association du Père Angel, messager pour la paix. À la rue, sans travail ni amis, il dîne ici tous les soirs. Il ne boude pas son plaisir. Au total, 26 personnes pauvres comme lui sont comme de véritables clients ce jour. 2 cuisiniers, 3 serveurs bien habillés, 2 beaux couverts, des plats dignes d'un restaurant très correct. À la table voisine de celle de David, il y a Immaculada, 34 ans. En général, elle reçoit une aide de la région de Madrid de 400 euros par mois, mais elle a eu des démêlés avec sa banque qui l'oblige à payer des intérêts pour son ancien logement. Elle est aujourd'hui à court d'argent et doit dormir à la Belle Étoile, sans famille.
Ce qui est bien avec l'association, c'est qu'ils ne te demandent pas de papier. La nourriture est délicieuse et l'endroit est moderne, vraiment confortable. Il n'y a pas que la nourriture, il y a surtout les gens. Moi ici, je me suis fait de nouveaux amis et je suis très contente. On nous traite bien, je me sens considérée comme un être humain.
Se sentir être une personne, c'est en plus de la nourriture ce qui compte le plus pour Immaculada. Être respecté, être considéré, avoir de la compagnie, pouvoir dîner comme l'immense majorité des Espagnols à une table avec une entrée, un plat principal et un dessert. Valentine, la quarantaine lui aussi, a également cette soif de considération, une considération qu'il trouve ici au Robin Hood.
On vient de manger et on a un plat chaud. Ce n'est pas comme avant avec l'association où c'était la queue pour la soupe populaire avec des sandwichs, un gazpacho l'été et l'hiver un bouillon qui n'empêchait pas d'avoir froid. Désormais, on est beaucoup mieux traité comme de vrais êtres humains avec un toit, une nappe, des fourchettes et des couteaux. Robin des Bois, je ne sais pas, je crois que c'était celui qui volait aux riches pour distribuer aux pauvres. Eh bien, c'est quelque chose d'approchant. Il faut partager. Hein.
Robin des Bois, celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres, ce n'est pas tout à fait la philosophie de l'association. Dans le message, il n'y a pas d'attaque contre les riches, mais une demande de collaboration. Le système est en réalité très simple. Dans ce restaurant, comme dans l'autre Robin Hood, plus au nord de Madrid, les clients du midi et du soir paient un surplus et ce surplus finance les déjeuners et les dîners de ces sans-abri. D'ailleurs, sur la façade du restaurant, on peut lire le menu « Entrée, amitié, deuxième plat, dignité, dessert, compagnie ». Jesús est l'un des coordinateurs de l'association.
Je crois que l'idée est très simple. Les gens peuvent se sentir solidaires en aidant les autres. La particularité ici, c'est que je peux venir manger, ne pas dépenser plus que si j'allais dans un autre restaurant. Et je sais que je contribue, je sais que j'invite ainsi une personne qui n'a pas les moyens de dîner dans un endroit pareil. C'est la particularité.
Ce soir-là, les personnes sans-abri ne sont pas les seules à sortir satisfaits du restaurant. Il y a aussi Manuel, 47 ans, expert financier, volontaire de l'association qui vient bénévolement servir des repas.
C'est triste de voir que ces gens ont pu en arriver là. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir les servir et d'être à leur disposition pendant un certain temps. Et aussi, parler avec eux, leur redonner de l'espoir, savoir qu'ainsi, ils se socialisent dans un groupe, car la plupart passent leur journée seuls. Et ça les affecte beaucoup, toute cette solitude. Ici, ils peuvent se sentir membres de la société.
Pour l'heure, l'expérience est un succès. L'association affirme que les deux Robin Hood affichent plus 20% d'affluence de clients payants depuis 15 jours. L'association Messager pour la Paix prévoit d'ouvrir un troisième établissement d'ici l'été.
Média.
Le journal irlandais Phoenix n'est pas un journal comme les autres. Deux fois par semaine, ce canard au nom d'oiseau s'en prend à tout ce qui fait consensus, à la bienséance, y compris celle qui a cours dans les médias classiques. Une ligne dure donc, dont il ne s'éloigne pas depuis sa création en 1983. Bonjour Julien Lagache.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondant en Irlande. Phoenix est un média à part, mais qui s'inscrit tout de même dans une longue tradition de journaux satiriques.
Oui, impossible en effet de le feuilleter sans penser à d'autres titres de la presse européenne. Private Eye, un journal anglais dont Phoenix s'inspire directement, même format A4, même irrévérence. Et bien sûr, le canard enchaîné en France. On y retrouve cet humour potache qui côtoie des informations de première main. L'ADN de Phoenix, c'est l'analyse, le décryptage. En fait, pour Paddy Prendeville, journaliste maison depuis 33 ans et rédacteur en chef, la raison d'être de son journal, c'est la critique de l'establishment, la presse y compris.
Ici, on ne publie rien qui a déjà été écrit. La plupart des médias s'adonnent beaucoup à des rubriques d'opinion, de sujets légers et d'analyses superficielles. Nous aimons penser que, contrairement à eux, nous proposons une vision dure mais juste de ce que sont les affaires, la politique. On ne va pas reprendre les déclarations du Premier ministre de la semaine dernière, mais expliquer comment il a triché la semaine dernière.
Exemple à l'appui, 4 sauveteurs sont morts à la mi-mars lors d'un crash en hélicoptère. La presse s'en est émue, a consacré des portraits aux victimes. Le Premier ministre a affiché sa solidarité et promis une enquête pour savoir comment cela a pu arriver. Mais dans son numéro suivant, Phoenix soulignait qu'Enda Kenny devait déjà connaître l'explication, puisqu'il est aussi ministre de la Défense. Il sait donc que l'État n'investit plus dans le matériel et l'entretien d'engins de secours.
Phoenix veut donc un journal très critique. Comment la rédaction travaille-t-elle ?
Alors il s'agit d'une toute petite équipe, trois journalistes permanents d'âges différents, ils écrivent ensemble la quasi-totalité des 45 pages du journal bi-hebdomadaire. Il y a un directeur de la rédaction qui participe à certaines décisions, quelques journalistes extérieurs, des pigistes, qui écrivent de temps en temps et pas sous leur nom pour éviter des problèmes avec les autres journaux auxquels ils collaborent. Parce que Phoenix n'est pas très consensuel, étape dure sur les confrères, sur les politiques, sur des personnalités, bref c'est un média assez radical.
Et à quel public s'adresse Phoenix, Julien ?
Eh bien, comme ses confrères, il a subi une baisse importante du lectorat et même si le magazine compte sur un socle de fidèles, il réfléchit à son développement, on pense tout de suite au web, et Phoenix a son site, mais qui est surtout un portail sans vraiment de contenu. Tout est encore en chantier, explique Paddy Prendeville.
Nous mettons en ligne des articles ou des extraits d'articles pour aiguiser l'appétit du lecteur, si vous voulez. Mais il faut s'abonner pour avoir un accès complet. C'est pareil pour tout le monde. On essaie de faire payer notre travail et si on diffusait des articles en ligne gratuitement, il n'y aurait aucun intérêt à acheter le journal. D'un autre côté, le reste de la presse n'est pas assez critique, trop pro-establishment. Donc, sur ce point, nous n'avons aucune concurrence.
Voilà, un refrain quand même assez connu, misé sur l'identité et la qualité du média pour faire la différence. Phoenix cherche toujours sa stratégie digitale, mais on entend bien qu'il compte encore beaucoup sur sa version papier.
Et dans un secteur de la presse en crise, comment Phoenix envisage-t-il son avenir ?
Il y a un lectorat fidèle en effet, mais rien de comparable aux autres grands titres, tels l'Irish Independent qui vend 97 000 exemplaires quotidiens ou l'Irish Times qui tourne autour de 65 000. Ceci dit, Phoenix touche différentes catégories sociales, explique Paddy Prendeville.
Circulation runs around 14,000. On vend 14 000 exemplaires. C'est une audience de niche qui mêle les politiques, les businessmen et les gens aux opinions radicales. En cela, c'est assez démocratique. Et les politiques qui n'aiment pas notre ton l'apprécient beaucoup quand un opposant se retrouve pris la main dans le sac. Quant aux gens radicaux, ils s'intéressent à notre page environnement, à notre rubrique média. Un sujet très maltraité dans ce pays parce qu'on ne crache pas dans la soupe, c'est la règle.
Vous l'entendez, un certain cynisme, beaucoup de distance par rapport à la presse traditionnelle jugée trop sensible aux influences extérieures, voire aux interventions politiques. Phénomène rare, nous dit-on chez Phoenix.
Ça arrive, mais les politiques évitent, parce que ça appelle souvent une riposte qu'ils pourraient ne pas apprécier. Mais on reçoit des menaces de poursuite. Et puis il y a une armée d'attachés de presse qui font pression sur les autres médias, mais pas avec nous, parce qu'ils savent que ce serait inefficace vu notre positionnement et qu'on n'écouterait pas leurs arguments souvent hypocrites sur ce qu'on ne devrait pas critiquer.
À noter cependant que comme les autres journaux, Phoenix compte dans ses pages de la publicité, y compris commerciale, ressource indispensable pour durer.
Merci Julien Lagarde. À Dublin, à très bientôt. Sur les bords de la Baltique, la ville polonaise de Gdansk doit sa notoriété mondiale au chantier naval, mais c'est une construction innovante d'un tout autre genre qui fait parler d'elle aujourd'hui, le théâtre Shakespeare, dont l'ouverture sur le ciel et l'acoustique parfaite sont assez uniques. Maya Szymanowska l'a visité pour nous.
Dans la grande salle en bois du théâtre, les répétitions vont bon train. Ce soir, le public assistera non pas à une représentation théâtrale, mais au dernier concert électro d'une star locale, Monika Brodka. Le théâtre Shakespeare de Gdańsk n'est pas en effet un théâtre comme les autres. Ouvert voilà 3 ans, il est devenu le haut lieu des concerts grâce à son acoustique hors pair. Mais ce n'est pas la seule particularité de ce théâtre. Sa silhouette noire se démarque du centre historique de Gdańsk tout en briques rouges. Il a été conçu à l'emplacement même d'un vieux théâtre élisabétain datant du XVIIe siècle qui servait d'école d'escrime. L'architecte italien Renato Rizzi a voulu rendre l'atmosphère des théâtres de l'époque en relevant un défi technique. La grande salle est dotée d'un toit qui s'ouvre sans un bruit en seulement 3 minutes. Le public peut ainsi se retrouver en pleine représentation ou en plein concert, la tête dans les étoiles, comme c'était le cas dans les théâtres élisabétains à l'époque de Shakespeare. La scène peut se transformer aussi. Toute la salle est construite avec des cubes de bois qui se haussent ou se baissent au gré du désir du metteur en scène. La salle, avec ses balcons traditionnels, bâtis sur un plan carré, peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Le théâtre, grâce à son architecture inhabituelle, attire de nombreux touristes. Le théâtre de Shakespeare n'a pas de troupe propre, il fonctionne comme une salle de spectacle et accueille tour à tour, en hommage à Ella Fitzgerald, les pièces de théâtre venues de toute l'Europe et bien sûr, s'en en oblige, le festival Shakespeare qui se déroule au mois de juillet. Aux côtés des chantiers navals et du musée Solidarność, il est devenu une étape incontournable sur la carte touristique de Gdańsk.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Sophie Janin. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.